I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What is your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远地区的母亲达玛加正忙着。
Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Monde, votre rendez-vous quotidien d'actualité internationale sur France Culture, ensemble pour 50 minutes jusqu'à 11h50, pour la suite de cette série consacrée aux universités dans le monde, en chantier, en crise ou en refondation. Justement en crise, Florian Delorme est malade pendant une journée ou deux, donc Xavier Martinet, moi-même, je le remplacerai. Université en crise, je le disais, lundi, elles étaient en compétition, université filtre ou passoire sociale hier, et aujourd'hui, c'est forcément un peu lié, l'université comme terrain de lutte sociale, du moins de leur expression. Alors le cliché est un peu facile, mais la tendance est intéressante. Il y a peu, c'était l'Europe et le continent américain. Les mouvements étudiants se multipliaient. Manifestations anti-CPE en France en 2006, les étudiants chiliens en 2011, le printemps érable québécois en 2012. Mais depuis ces épisodes, la contestation semble s'être affaiblie sur ces territoires. Aujourd'hui, il faut admettre qu'on est loin d'un nouveau mai 68, comme on pouvait le penser il y a 10 ans. Pourtant, il suffirait de déplacer le regard un peu plus à l'est pour voir que les campus du monde sont toujours virulents. Il y a des foyers nouveaux de contestation au Zimbabwe, au Tchad, en Afrique du Sud. Et puis plus loin encore, ces derniers mois, c'est en Inde que la pression étudiante s'est exprimée de la manière la plus forte, puisque depuis le mois de janvier, les manifestations, notamment dans la capitale New Delhi, se sont multipliées, la capitale de l'état de l'Uttar Pradesh. Des centaines de professeurs en grève dans l'université principale, la JNU, 18 universités dans le pays, les heurts ont été violents. Lundi dernier, c'était aux États-Unis, à Washington Square, que les étudiants indo-américains apportaient leur soutien à leurs camarades de Delhi, avec en cause d'abord l'arrestation d'un étudiant qui avait été accusé de sédition. Il s'appelle Kanaya Kumar, c'est un leader syndicaliste et figure de l'université Jawaharlal Nehru de New Delhi au lieu de la contestation en Inde.
Nous étions assis ici. Ils sont venus, ils nous ont dit « Vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici, vous êtes tous des éléments de protestation antinationaux ». Nous posons juste une simple question, pourquoi ne pouvons-nous pas nous asseoir ici? Ces personnes nous ont répondu, ces places sont réservées aux patriotes. Mais d'où viennent ces prétendues règles? Nous sommes venus ici pour soutenir les étudiants qui ont été injustement arrêtés. En tant que membres de l'université JNU, nous avons tous le droit de venir nous asseoir ici. Notre nationalisme n'est pas celui de Nathuram Godse. Notre nationalisme, c'est celui de la non-violence. C'est ça notre nationalisme.
On a besoin de faire le ménage à l'université de JNU. C'est plein d'éléments antinationaux, de djihadistes ou de drogués, toutes sortes de personnes qui devraient être exclues. Moins les étudiants vont en cours, plus ils devraient être en prison.
Prions pour notre mère patrie, l'Inde. Notre nation ne tolérera pas de se laisser insulter.
Voilà un climat tendu, vous l'avez entendu, on entendait la ministre de l'éducation, Smriti Irani, à la fin de ce petit extrait. Alors il y a l'affaire Kumar, une manifestation jugée anti-indienne, son arrestation, des brutalités, des heurts avec les nationalistes hindous, souvent liés au pouvoir. Et puis il y a la précédente affaire, un mois plus tôt, celle de Rohit, qui est un étudiant, lui, considéré comme dalit, intouchable, qu'on a dit suicidé parce qu'il avait été mis à la porte de son université à Hyderabad. Et là aussi, l'épisode avait donné lieu à un intense débat, souvent houleux. Bref, l'université indienne est toujours un haut lieu d'agitation sociale, mais laquelle, celle historique de Delhi, la JNU, s'agit-il d'un mouvement plus général? Quel rôle a joué la politique d'hindouisation menée par le BJP au pouvoir depuis 2014 et même un peu avant? Alors quels sont finalement les liens entre mouvement étudiant et parti politique? On verra tout cela avec vous, Jean-Thomas Martelly. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes chercheur en sciences politiques et sociologie au King's College, donc en Grande-Bretagne, et vous terminez une thèse sur les student movements, les mouvements étudiants en Inde. Alors on va en parler dans deux minutes et puis on ira aussi à l'est de l'Europe, en Turquie. Là, les étudiants sont illustrés dans les mouvements sociaux, la vie politique. Tristement, ces derniers mois avec l'attentat de Suruç, plus joyeusement avec les événements de la place Taksim, les manifestations qu'on a appelées du square Gezi en 2013. On dit que les étudiants ont joué un rôle central. On joindra au téléphone Özil Erdinç qui travaille sur les mouvements syndicaux, jeunes et politiques en Turquie justement. Et puis les étudiants au cœur des des luttes et de la contestation parfois radicale. On les a vus aussi en 2009, avant les printemps arabes en Iran, lors de ce qu'on a appelé le mouvement vert. C'était principalement les étudiants de l'université de Téhéran, elle aussi historique comme la JNU. Là, on appellera Saïd Peyvandi. Il est professeur à l'université de Lorraine en sciences de l'éducation. Il est aussi un ancien élève de l'université de Téhéran. Alors voilà, l'université de Téhéran, l'Institut technique du Moyen-Orient à Ankara, on va en dire deux mots dans l'émission, la JNU à New Delhi, des noms de campus prestigieux, parfois rebelles, tout se passe de l'amphithéâtre, pour ainsi dire, à la matraque, et traversé par une certaine idée de la gauche, on en parlera dans l'émission, jusqu'à quel point, peut-être Jean-Thomas Martelly, on peut faire simplement un point sur le sort de Kanhaiya Kumar, donc ce leader syndicaliste de la JNU, qui a été accusé de sédition, de conspiration. On apprenait aujourd'hui dans la presse indienne que c'est aujourd'hui, je crois, que la haute cour de New Delhi doit rendre son jugement, donc pour sédition. Kanhaiya Kumar, est-ce que vous pouvez nous replacer un peu cet étudiant syndicaliste et pourquoi est-ce qu'il a été accusé ?
Alors oui, c'est un étudiant donc élu de l'université de Jawaharlal Nehru. Il a été arrêté donc le 9 février par la police qui est rentrée, et c'est très rare sur le campus. Et on l'accuse donc d'actes séditieux. Il va probablement être libéré sous caution dans les prochains jours. Mais son arrestation montre bien quand même la volonté de l'institution, du pouvoir, de mettre des freins à la liberté d'expression et au droit à la dissidence d'un campus, donc JNU, qui est traditionnellement opposé à l'establishment.
Alors justement, on va présenter plus en détail ce campus, la JNU. Peut-être là aussi, on peut simplement dresser le décor. Donc on est à New Delhi, on est dans le nord de l'Inde, c'est les contreforts de l'Himalaya. C'est un peu une zone sensible en Inde, puisqu'on est près du Cachemire également. Et il y a cette université qui est quand même, on pourrait dire, une institution historique indienne créée en 56 par Nehru. Donc la JNU.
Je veux juste replacer le.
Je vous en prie.
Le débat. Elle a été créée par Indira Gandhi. L'acte a été débattu en 65. Mais effectivement, très rapidement après sa création, l'université est devenue un haut lieu du communisme institutionnel en Inde. Mais pas que. C'est l'abri de plusieurs mouvements sociaux assez importants, notamment en 2012 où les étudiants de JNU ont pris une part très importante dans les protestations contre le viol d'une étudiante à Delhi. Donc effectivement, JNU dans le panorama des universités en Inde est traditionnellement la capitale de la protestation.
Qu'on a pu appeler, on le voit dans certains articles, un bastion rouge, mais ce sera à discuter, je pense, pendant l'émission. Pour revenir à Kanhaiya Kumar, donc c'est un syndicaliste, étudiant également. Et pour revenir à cette affaire du 9 février, donc cette fameuse manifestation justement où on lui reproche d'avoir tenu des propos anti-hindous, des propos séditieux. Finalement, il s'agissait d'une manifestation en l'honneur quand même d'un personnage séparatiste qui était membre, en tout cas, accusé comme tel d'un groupe qui s'appelle Jaish-e-Mohammed et qui est un groupe cachemiri séparatiste responsable, lui, de l'attaque du Parlement en 2001. Alors c'est intéressant, comment est-ce que ça se fait que des étudiants aujourd'hui de la JNU s'intéressent à cette figure séparatiste et aux séparatistes cachemiri ?
Alors il faut bien faire le distinguo entre les différentes factions, les différents groupes qui sévissent sur le campus. Tous ne sont pas d'accord avec ce genre de slogan, ce genre de manifestation. Ce qui est important de noter, c'est que JNU en tant qu'université a toujours laissé la place au débat. Et même si certains groupes alliés ou en support de l'idéologie maoïste en Inde, qui a donc une faction armée, une guérilla qui est active depuis la fin des années 60. Dans certains États, même si des petits groupes d'étudiants sur ce campus manifestent en faveur d'Afzal Guru et contre sa pendaison par l'État indien après son implication dans les attaques de Bombay en 2008, même si il y a donc une faction qui est en faveur de la séparation ou de l'indépendance du Cachemire, cela ne veut pas dire que les autres mouvements communistes ou non sont en support ou sont en alliance avec ce genre de propos.
Et en ce qui concerne Kanhaiya Kumar, donc vous avez interviewé plusieurs fois, je crois, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà parlé de ces sujets-là?
Ah oui, bien sûr. Kanhaiya Kumar est membre d'une organisation qui est donc le CPI, le Parti communiste indien. Le parti communiste historique de l'Inde et son organisation, disons, étudiante, qui a été créée en 1936 et qui a été très longtemps le fer de lance de l'indépendance en Inde. C'est un parti qui est parlementaire, qui a des élus, qui est contre la lutte armée. Ce n'est absolument pas son idéologie, mais en tant que leader étudiant, et particulièrement à JNU, il se doit d'être présent à toutes les manifestations, parce que c'est la figure de l'université, c'est la figure de du débat sur le campus.
Comme beaucoup de leaders syndicalistes, il doit faire acte de représentation, donc
en effet.
Simplement. Alors justement, cette manifestation du 9 février, elle a été filmée, en tout cas c'est ce que prétend un certain nombre de vidéos qui sont publiées assez souvent d'ailleurs par le BJP ou le parti au pouvoir, le parti de Narendra Modi, ou des organes du BJP, des organes étudiants. On va l'écouter tout de suite, cette manifestation. Alors voilà, donc une vidéo qui est censée être tournée le mardi 9 février sur le campus de la Jawaharlal Nehru University. On entend, excusez mon hindi, Bharat Tere Tukte Onge, et puis Inch'Allah, Inch'Allah. Je crois que ça veut dire avec l'aide de Dieu, l'Inde va être réduite en cendres, vous confirmez?
Oui, je confirme.
Alors, donc c'est une vidéo qui a été publiée, je le disais, par un ensemble de partis de droite. Puis il y a eu une polémique au sujet même des vidéos et puis de l'accusation portée contre Kanhaiya Kumar.
Oui, bien sûr. Si on regarde donc le débat d'un peu plus loin, et il est clair maintenant que les vidéos qui ont été prises ont été truquées avec l'aide de l'État, il y a une volonté claire de polariser et de stigmatiser une certaine catégorie de la population qui sont donc les musulmans, et cela fait partie traditionnellement de ce que le BJP, ce que le RSS, donc les hindous nationalistes veulent faire lorsqu'ils ne peuvent pas tenir leurs promesses électorales, notamment en termes de croissance. Lorsque cela se produit, il y a des pogroms, notamment en 92 à Ayodhya, notamment en 2002. Ça fait partie d'une tentative de stigmatiser une certaine catégorie de la population et donc de aussi stigmatiser la contestation étudiante sur les campus.
Donc là, quand vous dites que cette vidéo a été truquée, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un événement minoritaire dont on a fait une généralité et Kanhaiya Kumar sert de bouc émissaire, ou la vidéo elle-même a été truquée?
Non, c'est l'audio, la partie audio qui a été truquée. Après, là, il y a une autre polémique qui concerne la personnalité des gens qui étaient présents au moment du sloggering, comme on dit en anglais. Ce n'est pas absolument pas certain que les étudiants présents à ce moment-là, que certains étudiants présents à ce moment-là soient du campus lui-même. Le campus étant un espace libre, les gens vont et viennent, et donc on n'est pas sûr que ces slogans viennent d'activistes de la JNU.
Oui, parce que c'est un campus ouvert avec beaucoup d'espaces verts.
Exactement.
Voilà, ouais. Et d'ailleurs, une chose intéressante aussi, c'est que les étudiants donc ne sont pas les seuls visés dans cette affaire. Je disais qu'il y avait des professeurs qui s'étaient mis en grève. Un professeur d'université qui s'appelle Seyed Abdul Rahman Gelani a aussi été arrêté, lui, pour des propos qui étaient qualifiés de slogans anti-hindous. Et il se trouve que c'est un professeur d'arabe. Est-ce que c'est une coïncidence selon vous?
Non, c'est absolument pas une coïncidence. Kanhaiya Kumar n'est pas le seul à avoir été accusé d'actes séditieux. C'est une disposition législative qui est utilisée assez fréquemment. La base communautaire des propos du BJP et du RSS, donc pour stigmatiser une certaine catégorie de la population, ce n'est pas nouveau, c'est juste la continuité d'un certain ethos du pouvoir hindou nationaliste.
Et pour conclure sur ces événements de New Delhi, qu'est-ce que ça exprime selon vous? C'est d'abord la pression qui est mise par le gouvernement à partir de cet événement finalement anodin, là, cette manifestation en faveur de Afzal Guru, le séparatiste, c'était la troisième déjà, je crois qu'il s'était rien passé les deux années précédentes, ou alors est-ce que ça exprime une volonté des étudiants de marquer un terrain désormais nouveau pour eux, dont ils veulent s'emparer?
Il y a une volonté de la part de la BVP, qui est donc la branche étudiante du RSS. Il y a une volonté de stigmatiser...
Donc les étudiants de droite.
Les étudiants de droite, même si la droite et la gauche, il faut bien sûr replacer ça dans son contexte, mais il y a une volonté très claire d'avoir le monopole du nationalisme. On a bien vu dans les vidéos, dans les enregistrements, des accusations d'être des antinationaux. Des antinationaux dans le sens où vous ne soutenez pas la version hindou nationaliste qui donc prévaut au gouvernement. Donc GNU, en tant que représentant de plusieurs mouvements séculaires, non pas seulement les mouvements communistes, mais aussi des mouvements dalits, mais aussi des mouvements de femmes, tous ces mouvements, toutes ces organisations se réclament d'un certain sécularisme, et c'est aujourd'hui ce sécularisme qui est attaqué par le gouvernement.
Au fond, c'est ça, c'est le nationalisme hindou du BJP qui est reproché. Et à cet égard, je crois avoir vu des choses intéressantes dans vos études. Vous avez mené des enquêtes justement sur la perception du nationalisme par les étudiants syndiqués, mobilisés. Finalement, tous ont leur forme de nationalisme indien aussi.
Oui, oui. Dans une interview, Kanhaiya Kumar disait qu'il était marxiste, mais qu'il était aussi un patriote. Et on voit bien aussi, lorsqu'on regarde d'autres mouvements communistes partout dans le monde, notamment en France, la vision, et Benedict Anderson l'a bien dit, le nationalisme et le communisme ne sont pas mutuellement exclusifs. Il y a une certaine forme de nationalisme communiste, et c'est clairement le cas lorsqu'on fait une analyse textuelle de ces mouvements à GNU.
Oui.
On voit effectivement qu'il y a une autre vision de l'Inde qui est développée, et cette vision n'est pas acceptée, n'est pas tolérée par le gouvernement.
C'est ça. Donc disons que du côté de la GNU, on a effectivement un combat qui se place sur le terrain politique réel, effectivement, dont l'enjeu est notamment qui va se saisir du nationalisme. Et puis on a aussi un combat étudiant, en ce moment, je le disais en introduction, qui se place plus sur le terrain social. Alors là, je fais référence à Rohit Vermula, qui était donc cet étudiant, lui, de l'université d'Hyderabad, on est dans le centre du pays, État de Telangana, qui a été retrouvé mort au foyer de l'université le 17 janvier, probablement suicidé. Alors Rohit, c'était un Dalit, donc la caste des intouchables. C'était un membre aussi d'un syndicat, le Ambedkar Students Association, donc le syndicat de défense des basses castes. Il a été exclu avec 5 camarades de l'université après une bagarre avec des membres de la BVP, donc ce fameux syndicat dont on parle depuis le début de l'émission, proche du pouvoir. Il y aurait eu des pressions fédérales pour des sanctions dures contre les Dalits.
Un étudiant s'est donné la mort et nous n'allons pas rester les bras croisés face à cela. Il dormait sur la principale route de l'université centrale d'Hyderabad. Il n'avait même pas le droit de se nourrir, pas le droit d'aller à la bibliothèque. Des études l'ont démontré. Nous ne pouvons pas ignorer l'impact que cette situation peut avoir sur un jeune étudiant-chercheur de 28 ans mis au banc de la société. Vous lui ôtez toute fierté, tout bonheur, tout confort. Lisez son récit dans sa lettre d'adieu. S'il vous plaît, lisez les premières lignes de cette lettre écrite par Rohit.
Alors voilà, vous l'entendez, un débat télévisé tendu. On a aussi entendu les coups de matraque sur les étudiants qui manifestaient, donc une grande brutalité dans la répression. Le suicide de cet étudiant Rohit, donc un Dalit, qui a laissé une lettre avec des propos d'ailleurs assez critiques, assez sibyllins, que ce soit dans le domaine des études, dans la rue ou en politique, dans la vie comme dans la mort, l'homme l'islam est toujours réduit à son identité immédiate, sa valeur est mesurée uniquement à l'aune de son statut social, il est identifié à son bulletin de vote, numérisé, chosifié, alors que l'être humain est un être d'intelligence et de splendeur, fait de poussière d'étoiles. Ce sont les derniers mots de Rohit. À qui s'adresse cette lettre et de quel bulletin de vote s'agit-il alors, Jean-Thomas Martelly? Est-ce qu'il s'agit des bulletins de vote que les étudiants donnent au syndicat auquel ils sont affiliés ou du bulletin de vote fédéral ou de l'État dans lequel on vote?
Alors oui, il y a deux choses qui me paraissent importantes à dire. D'abord l'émotion, effectivement, cette lettre est extrêmement poignante. Et j'ai moi-même laissé traîner une copie par hasard à l'université à Londres et après, dans les 10 minutes, il y avait déjà un mouvement de panique. Les gens avaient commencé à lire la lettre et étaient un peu en panique. Donc une très grande émotion qui renvoie à une question assez fondamentale, qui est donc le rôle politique des étudiants à l'univers, des étudiants politiques et les luttes pour l'égalité. Les luttes pour l'égalité, on l'a dit, l'égalité et le droit à la dissidence, à la parole. On en parlera peut-être, l'égalité des sexes, qui est un débat absolument nouveau et crucial dans l'Inde contemporaine, et l'égalité des statuts. Et ça, c'est assez important. Et c'est fondamental parce que nombreux mouvements étudiants, notamment après 2006 et la commission Mandal, sont portés sur le droit aux Dalits et aux Obissi à une représentation, représentative sur le campus.
Qu'ils ont apparemment, puisque c'est
qu'ils ont. Et donc les other backward classes, donc les autres classes arriérées, bon c'est le terme du gouvernement, il est malheureux mais bon c'est celui-là, ont bénéficié d'un quota sur le campus et ce quota a été de très nombreuses fois critiqué. Et il renvoie à l'idée que les Dalits souffrent d'un stigma de type symbolique. Et donc c'est ce type d'inégalité qui est aujourd'hui mise en valeur par le suicide, via le suicide de Rohit, qui donc a été poussé au suicide, et ça c'est en lien avec son identité d'intouchable.
Quand vous dites un stigma symbolique, ça veut dire que les règles universitaires sont égalitaires et que cependant, dans la pratique, les Dalits sont toujours exclus des instances ou de la vie universitaire.
Exactement. Les règles donc introduisent des quotas, de la discrimination positive, mais c'est très souvent cette discrimination positive n'est pas appliquée correctement. L'administration se comporte de façon odieuse avec les étudiants dalites. Il y a donc une forme de violence, une violence sociale qui ne se voit pas dans les textes, mais qui se voit dans la pratique. Disons, lorsqu'on fait une ethnographie, on le voit bien, une pratique quotidienne de la vie sociale sur le campus.
Et d'ailleurs, vous disiez, c'est une situation qui fait écho, qui est assez largement répandue en Inde. Je crois qu'il y a eu 22 suicides recensés, en tout cas, d'étudiants dalites en 10 ans. Donc, il y a effectivement des problèmes qui ne sont toujours pas réglés et dont on ne veut pas tenir compte, alors du côté des autorités universitaires ou du pouvoir fédéral.
Oui,
c'est ça. Alors on va rejoindre dans juste quelques minutes Özil Erdinç, mais je voudrais continuer un peu revenir sur la GNU. On voit effectivement qu'il y a un peu partout dans l'Inde, pas seulement dans la GNU, donc une forte mobilisation sur les thèmes politiques, sur les thèmes sociaux. Vous-même donc vous avez écrit un bel article aussi, en tout cas le titre de Republic of GNU, donc la République de la Jawaharlal Nehru University, et qui fait référence, si on vous lit bien finalement, à la forte socialisation politique des étudiants lorsqu'ils entrent dans cette université. Une socialisation qui commence presque, pour ainsi dire, dès le début, dans le dortoir, dans les chambres des étudiants.
Oui, en effet. Il y a un très fort pouvoir d'intégration à GNU. Et c'est pour ça que j'appelle à GNU un miroir déformant de la société indienne. C'est clairement un espace de socialisation où toutes les catégories de la population, en termes de caste, mais aussi en termes de région, sont présentes. Si on pourrait dire, comme le terme médiéval, hein, studium generale, un espace où tout le monde est admis de plusieurs types de régions et où toutes les formes de politique sont acceptés. Il y a donc un communisme pluriel, du communisme maoïste, du communisme marxiste-léniniste, du communisme parlementaire. Il y a des organisations culturelles de promotion des Dalits. Il y a des partis beaucoup plus institutionnels, des partis de pouvoir au niveau national, donc les partis les associations étudiantes du Parti du Congrès, celles de la BVP, mais aussi celles des partis régionaux, et on en parle peu, les partis régionaux sont très importants en Inde. Donc c'est un espace qui accueille tout le monde et qui intègre les différentes catégories de la population étudiante dans la politique. Donc c'est ça, la politique, c'est une affaire de tous, et on le voit bien dans un article qui est en train d'être publié là, que plus on passe de temps sur le campus, plus on est politisé et plus on a de chances de participer aux activités politiques. Donc c'est vraiment un espace démocratique, mais c'est un espace de démocratie participative.
Un espace donc où la diversité politique et leur représentation est plutôt très poussée, avec quand même une dominance en tout cas dans la direction de l'université, on pourrait dire de la gauche la plus radicale. Vous avez fait une enquête sur la période 1974-2015, donc ça fait 42 années d'élections réelles, puisqu'il y a eu quelques années d'interruption, où on voit que, donc si j'ai bien compté, il y a 22 victoires pour la SFI, Students Federation of India, donc marxiste, 9 victoires pour les marxistes-léninistes, ça fait 31 sur 42, plus de 73%. Il y a une large domination de la gauche, en tout cas dans la direction des affaires universitaires syndicales.
Oui. Après, il faut se méfier du concept de radicalisme. Il y a des organisations de gauche qui sont beaucoup plus radicales, qui d'ailleurs ne participent pas aux élections, car elles ne croient pas au débat parlementaire. Cependant, effectivement, deux organisations dominantes traditionnellement sont deux partis marxistes-léninistes qui croient en la révolution. Une distinction cependant, il y a un parti, donc et sa branche étudiante, le SFI, donc le parti en question, c'est le CPIM, donc le Parti communiste indien marxiste, qui traditionnellement parlementaire est très puissant au Bengale. Et au Kerala, qui a été donc au pouvoir pendant très longtemps, on peut même dire que c'est l'un des seuls communismes démocratiques qui a vraiment existé, exercé le pouvoir. Et ensuite, un parti communiste qui se perçoit comme plus radical, qui vient du Bihar, et qui était donc dans la lutte armée jusque dans les années, au début des années 90, où il a commencé à décider de participer aux élections. Et c'est ce parti-là qui, traditionnellement, depuis 2006, à peu près, domine les affaires politiques sur le campus.
Du Bihar, donc, est un voisin et plutôt rural. On va reparler de cette composition syndicale à la GNU, plus largement, de la mobilisation politique étudiante en Inde, mais on va tout de suite appeler Özel Erdinç. Bonjour Özel Erdinç.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir attendu au téléphone avec nous. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des relations entre mouvements étudiants, syndicaux et politiques. Et vous aussi, vous préparez une thèse donc sur les relations entre le champ syndical et le champ politique de 1980 à nos jours. Et précisément, on parlait du syndicalisme étudiant. Vous avez beaucoup étudié, approché un syndicat particulier étudiant en Turquie qui s'appelle le Gençsen et qui est un syndicat assez récent, finalement créé dans les années 2000, c'est bien ça. Est-ce qu'on retrouve justement au sein de ce syndicat une diversité d'affiliations politiques, et qu'est-ce que c'est que ce syndicat finalement?
Oui, exactement. Donc Gençsen, normalement, c'est une nouvelle organisation dans l'histoire des mouvements étudiants en Turquie, parce que la forme d'organisation comme ce syndicat, c'est nouveau. Dans les années 60-70, il n'y avait pas d'organisation qui se déclarait comme syndicat. Alors que dans les années 2000, donc d'abord par une initiative de la Confédération syndicale ouvrière qui est de tendance socialiste social-démocrate, donc qui a été déclenché ce mouvement d'organisation des jeunes et des étudiants. Donc on a trouvé plus de les étudiants qui ont été avant mobilisés et puis engagés au sein des différents partis politiques et qui se sont trouvés et rassemblés autour de la fondation d'un nouveau syndicat étudiant.
Donc c'est plutôt un syndicat qui a recruté des étudiants. C'est un mouvement qui est parti d'en haut ou c'est un mouvement qui s'est fait de la base, puisqu'on parle d'un syndicat qui est non étudiant au départ?
Oui, bon, c'est les deux en fait, parce que d'abord c'est pas l'initiative de la Confédération ouvrière, mais c'est aussi ils sont allés sur place aux universités pour pouvoir trouver des étudiants qui s'intéressent à organiser un syndicat étudiant. Mmh. Donc c'est plutôt une articulation des deux dynamiques, je peux dire.
D'accord. Alors, je crois qu'on n'a pas de chiffres précis sur les affiliations des étudiants. Cependant, il y a certains points intéressants d'actualité, si on peut dire, puisqu'on a beaucoup parlé, je le disais en introduction, de la présence des étudiants pendant les manifestations de la place Taksim, donc liée au square Gezi. On était en 2013. Je rappelle très rapidement de quoi il s'agissait. Il y avait un grand projet immobilier à Istanbul. Le pouvoir voulait faire un centre commercial à la place d'un square, ce qui a entraîné des manifestations pendant des semaines, souvent des heurts avec la police également. Donc on parlait beaucoup de la présence des étudiants dans ces manifestations. Quelle réalité ça avait et quelle place avait Gençsen à l'époque dans ce mouvement?
Ouais. Bon, c'est triste que Gençsen n'avait pas pu n'était pas beaucoup plus présente pendant les manifestations de Gezi, parce que c'était plus les étudiants qui étaient déjà engagés au sein des différents partis politiques, ou même les étudiants qui n'étaient pas du tout politisés avant, mais qui ont décidé de participer aux manifestations de Gezi qui étaient plus majoritaires. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu de chiffres, à la fois sur la syndicalisation des étudiants, mais aussi sur l'affiliation partisane des étudiants. Mais je peux dire que pendant les manifestations de Gezi, c'était plus des étudiants qui étaient membres des partis politiques ou qui n'étaient pas du tout des membres des partis politiques que les étudiants qui se sont mobilisés massivement.
Donc difficile, ouais. Effectivement, d'identifier les manifestations et la mobilisation de Gezi, donc 2013 à l'époque, à un mouvement syndical pur, on pourrait dire un mouvement qui a agrégé beaucoup de monde, dont beaucoup d'étudiants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait peut-être repérer des foyers de contestation étudiante en Turquie, en Inde. Donc là, on en parle avec Jean-Thomas Martelly, on voit la prééminence d'une université qui n'est pas forcément la plus grande en nombre d'étudiants. Pour la Turquie, je crois qu'on a à peu près 200 universités, c'est un nombre en hausse. Il n'y a pas de foyer contestataire majeur. Cependant, on avait beaucoup parlé en préparant cette émission quand même de l'ÖDTÜ d'Ankara, qui est l'université technique du Moyen-Orient. Et effectivement, qu'on a vu beaucoup, on les voit dans les reportages de l'époque, se rendre à Gezi, manifester même à Ankara, puisque cette université aussi a eu un problème de chantier et de projet immobilier qui devait la traverser, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. ÖDTÜ, c'est déjà une université historiquement très mobilisée et historiquement reconnue comme université de gauche. Et donc, juste à la veille des manifestations de Gezi, il y avait déjà des manifestations au sein de l'ÖDTÜ organisées par les étudiants qui protestaient contre un projet d'urbanisme géré par la mairie d'Ankara, qui est une mairie du gouvernement, donc qui est une mairie de l'AKP, et qui visait le campus, donc qui visait la construction de l'intervention sur le campus de l'université. Donc là, il y avait déjà des manifestations, et donc c'était plutôt les manifestations de Gezi qui se sont articulées avec les manifestations à ÖDTÜ. Donc il y avait beaucoup d'étudiants qui ont participé et qui se sont manifestés donc à Ankara, non seulement sur le campus, mais aussi dans d'autres quartier d'Ankara, autour d'Ankara. Oui. Il y a beaucoup des universités de province aussi où on a vu beaucoup de participation aux manifestations qui ont été déclenchées suivant Gezi. Donc il y a pas seulement les universités à Istanbul ou dans des grandes villes, mais donc en province aussi, il y a une dynamique des étudiants des mobilisations dans les universités de province, qui est plus face à face.
Et en tout cas, pour le TU, on note quand même la coïncidence presque en miroir des situations, et puis que là aussi, comme en Inde, il y a eu répression et puis des pressions des professeurs en 2013 et des chargés de recherche, je crois qu'ils sont au moins 11, ont été convoqués au rectorat pour des sortes d'interrogatoires indirects. On leur demandait pas s'ils avaient participé aux manifestations, mais pourquoi, disons, ils n'avaient pas surveillé tel ou tel cours à l'époque. Et puis, ce qu'on voit aussi, notamment concernant le TU, c'est la récurrence des mobilisations après Taksim, après Gezi, alors même avant d'ailleurs, en été, en hiver 2012, à Ankara, à Istanbul, il y a eu des manifestations, on retrouvait le TU. Donc 2013, c'est Taksim. En 2014, c'est les questions de laïcité. Ici, c'est le port du voile, alors qu'il est question justement de lever en ce moment en Turquie l'interdiction du port du voile dans les universités, un peu le problème inverse de la France.
Nous sommes ici contre l'éducation pieuse et raciste. Nous sommes ici pour lutter pour l'éducation laïque et démocratique enseignée dans la langue maternelle.
Le foulard est quelque chose de traditionnel chez nous. Nos mères le portent. Mais nous ne voulons pas qu'il soit dans les universités et l'éducation. Atatürk nous a apporté la liberté et la laïcité. Maintenant, ils essayent de mettre des éléments religieux dans la Constitution.
Si cette pratique devient un règlement appliqué par tous, si notre université donne l'autorisation, on ne pourra pas s'y opposer. Elles entreront dans la salle, le cours continuera. Je ne pourrai pas me permettre d'exprimer des préjugés à leur égard, mais évidemment, ça ne me plaira pas du tout.
En injectant la religion dans l'éducation, l'AKP et le parti au pouvoir tentent de créer un modèle de société conforme à ses propres tendances philosophiques. Nous ne voulons pas que nos enfants et notre pays soient modelés dans leur mentalité par un pouvoir politique.
Voilà, modelé par un pouvoir politique. Vous avez entendu Ezel Erdinç. Donc là, on était plutôt en 2014-2015 avec ce projet effectivement de lever l'interdiction du voile à l'université. Où est-ce que ça en est et comment se polarisent les étudiants face à ce projet?
Oui, en fait, bon, le port du voile, c'est vrai que c'est une question plus délicate parce que d'un côté, ce sont plutôt les gens qui soutiennent l'AKP ou qui sont plus conservateurs, mais de l'autre, qui sont plus kémalistes, donc qui sont aussi bon, laïcistes, je peux dire, et donc qui ne font pas partie de la base du mouvement étudiant de gauche en Turquie, je peux dire peut-être. Parce que c'est délicat, parce que normalement, les organisations de gauche, socialistes, marxistes-léninistes, des étudiants en Turquie, ont soutenu, majoritairement plutôt, la liberté des étudiantes de porter du voile au sein des universités, donc dans l'espace public. Donc c'était une question des droits de porter du voile, et donc des libertés pour eux, alors plutôt que qu'un problème de religion ou de conservatisme ou du kémalisme.
Ce qui fait que, pour conclure un peu globalement sur la situation et les affiliations, on pourrait dire, politiques des étudiants en Turquie, vous m'avez parlé d'une mobilisation qui avait été importante dans certaines universités de province, également Izmir par exemple. On a vu pas mal de ces étudiants d'ailleurs à Suruç, c'est eux en partie qui ont été tués lors de l'attentat. Donc, pour conclure, vous diriez qu'on a aussi quelques universités qui sont des bastions de gauche en Turquie, si on peut le dire ainsi?
Oui, bien sûr. Oui. Par exemple, en fait, à Galatasaray, à Istanbul ou à Otu, dans plusieurs universités, surtout dans des universités techniques. Donc, il y a maintenant, donc avec les conflits en Syrie et puis au sud-est de la Turquie, donc au Kurdistan, et puis les étudiants emprisonnés maintenant, récemment. Et puis donc les étudiants qui soutiennent maintenant le mouvement des enseignants qui ont signé la pétition, donc qui ont créé une nouvelle dynamique des étudiants. Donc ce sont plutôt des nouvelles dynamiques qui encore renforcent le mouvement étudiant en Turquie aujourd'hui.
D'accord. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Ezel Erdinç d'être intervenu aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci.
France Culture, Culture Monde. Xavier Martinet.
Voilà, on retourne en plateau avec Jean-Thomas Martelly au sujet des universités indiennes et de la capacité, on pourrait dire, de mobilisation étudiante. On en était resté avant ce coup de fil sur la Turquie, sur précisément, cette idée de université JNU comme bastion de gauche. Alors c'est vrai, Jean-Thomas Martelly, vous y avez été plusieurs fois, il faut peut-être le dire, quand on entre dans l'université, quand même, on a tous ces posters de Lénine, Marx, Kanaya Kumar, mais peut-être plus que ça encore, puisqu'on est allé un peu plus loin. Vous avez évoqué créer ce modèle pas forcément représentatif de l'Inde, de la GNU, mais quand même un modèle de socialisation politique. Et je vois dans certaines interviews que certains étudiants parlent également d'un certain modèle universitaire, puisqu'il s'agit quand même d'une université assez complète également.
En effet, il faut souligner plusieurs choses. Premièrement, GNU est une université résidentielle, donc les gens vivent sur le campus. Donc quand on parle de socialisation politique, c'est lié à cela aussi. C'est une université de qu'on appelle postgraduate, donc qui pour étudiants de master, doctorants et postdoctorants en majorité. Donc effectivement, il est difficile de généraliser la situation à GNU. Surtout que dans plein d'universités en Inde, il n'y a tout simplement pas d'élection. Et lorsqu'on parle de bastion de gauche, il faut aller regarder dans quelques autres universités, notamment au Bengale et au Kerala, pour voir une prééminence de la gauche. Dans d'autres espaces, si l'on prend le Telangana par exemple, c'est une domination de Dalit. Et d'un certain communisme parlementaire, mais pas pendant toutes les élections. Donc effectivement, on parle de deux types de mobilisation ou deux types de militantisme. Il y a le militantisme élitisme d'une université comme GNU, élitisme académique. C'est une université qui enseigne en anglais uniquement. Donc, il faut un certain background pour y arriver.
Et on retrouve les professeurs mobilisés.
Professeurs, examen d'entrée, professeurs mobilisés. Donc il y a un cadre un peu exceptionnel qui rentre dans une culture de gauche, qui est présente sur d'autres campus, mais qui est tout de même, il faut le rappeler, minoritaire. Disons un cadre un peu plus général où les mobilisations étudiantes sont plus liées à des demandes pratiques, des choses qui ne marchent pas, l'emploi, le chômage, un ethnographe assez célèbre, Craig Jeffrey, a montré que les mobilisations étaient très liées au time pass, donc l'ennui, l'activisme pour passer le temps. Donc il y a ce type d'activisme là, et ensuite il y a l'activisme idéologique, très idéologique, de la GNU et de quelques autres universités de gauche partout en Inde.
C'est ça, et pour étendre un peu justement au paysage indien, on parle de culture de gauche, on parle d'activisme idéologique, mais il y a également un activisme qui n'est pas idéologique, qui est plutôt social. Justement, c'est les manifestations assez régulières contre les viols, puisqu'ils touchent assez souvent des jeunes filles, et qui sont souvent aussi des étudiantes. Il y avait plus de 100 000 étudiants en 2014 dans les rues de Calcutta, et puis à New Delhi, ce sont des mobilisations extrêmement fréquentes depuis au moins 2012, là où il y avait eu une grosse affaire, le viol d'une étudiante qui avait suscité des manifestations très importantes. Et là, encore dans cet extrait, on est sur le campus de la GNU, même si pas en 2012, un peu après.
Les femmes dans notre pays veulent la liberté. Nous voulons pouvoir nous habiller comme bon nous semble. Nous voulons la liberté d'étudier, nous voulons la liberté dans tout. Nous voulons l'égalité dans la société.
Je pense que quand les jeunes filles viennent d'elles-mêmes, qu'elles ne sont poussées par personne et qu'elles brandissent des pancartes avec marqué « Ne me dis pas comment m'habiller, apprends à ton fils à ne pas violer », ce sont des choses qui aident à changer les mentalités. Je pense aussi que dans ce mouvement, il y a un dialogue qui se crée entre filles et garçons.
Voilà, donc les étudiants qui se mobilisent à New Delhi contre les viols, soutenus par des intellectuels. Et également, là-dessus, est-ce qu'on pourrait dire que les étudiants sont en pointe et puis surtout qu'ils ont réussi à peser réellement sur la situation ?
Oui, en effet, ils participent au débat et à l'émergence d'un nouveau sujet de société qui est le droit des femmes en Inde. Et ici, c'est très clair dans le mouvement Kiss of Love, dans le mouvement Color Hope, on n'en a pas parlé, mais dans le viol de 2012, les étudiants ont pris une part très importante dans les manifestations et montrent qu'ils sont prêts à faire changer l'opinion publique. Donc c'est très important de voir le rôle de l'université en collaboration avec d'autres sections de la société indienne.
Et clairement, donc des universités indiennes sous tension et capables de mettre la pression effectivement politique et sociale. C'est un petit peu le contraire en Iran, on pourrait le dire aujourd'hui, à l'occasion de la campagne législative qui vient d'avoir lieu. À en croire un bel article de Pierre Barbancet dans l'Humanité, l'effervescence des meetings des candidats tenus à l'université l'université de Téhéran cache une mobilisation assez molle, une jeunesse étudiante assez amère. Et pourtant, il y a 6 ans, rappelez-vous, c'était le mouvement vert, c'était l'ébullition étudiante.
Il est évident qu'on ressent bien ce qu'il se passe dans le pays, particulièrement ici, la principale université du pays. Il y a des divergences d'opinion entre étudiants.
Actuellement, il y a une réunion juste à côté où les étudiants peuvent prendre la parole. C'est bien mieux comme ça.
Il n'y a même pas un bureau à la disposition des opposants au sein de l'université. Les opposants ne peuvent pas s'exprimer et il n'existe aucune organisation d'opposition étudiantine.
Ici, à l'université, les opposants sont peu nombreux et isolés. Ils sont très vite identifiés par le comité de vigilance islamique et ils finissent par être expulsés.
Voilà, être expulsés, les étudiants, c'est ce qui vous est arrivé il y a un certain temps aussi, à une autre époque. Saïd Pevandi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Désolé, on a très peu de temps, on va essayer d'aller vite. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Lorraine, directeur du LISEC, Laboratoire Interuniversitaire de Sciences de l'Information et de Communication. Et globalement, on peut remarquer que dans vos articles, vous avez été un moment assez sévère quant aux résultats du mouvement vert. Vous avez parlé d'échecs politiques, des intellectuels et des étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire justement aujourd'hui? Où en est le mouvement étudiant en Iran, en tenant compte du fait que effectivement, là aussi, les étudiants ont joué un grand rôle en 2009.
Oui, exactement. Les étudiants étaient au centre du mouvement déclenché après les élections contestées de 2009. Mais en même temps, le problème est que ce mouvement n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa logique. Donc, c'est cet échec qui est analysé dans mon texte. Donc, je ne suis pas sévère en disant que c'est leur faute, mais en disant également que finalement, il manque un type d'organisation et un mouvement un peu plus centré, surtout sur des revendications propres de l'université, parce que ce que je reproche au mouvement étudiant également, c'est d'être trop centré sur les problèmes sociaux généraux plutôt que les problèmes liés aux études à l'intérieur de l'université, parce que finalement il y a tellement de pression sur les professeurs, sur les étudiants, et ces pressions sont moins travaillées par les étudiants contestataires et ils se concentrent davantage sur les questions politiques générales.
Et justement, politique générale, je le disais, je citais l'article de Pierre Barbancet dans l'Humanité concernant les élections. Il y a donc eu des meetings de candidats pour les législatives dans l'université. Donc, en quelque sorte, c'est une plateforme politique aujourd'hui. Mais les étudiants, quelle part est-ce qu'ils prennent justement dans ces meetings aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire la plupart des meetings politiques de ces derniers mois à l'occasion de ces élections ont lieu à l'université au sein des établissements supérieurs. Donc ça montre que l'université reste encore une plateforme très importante, surtout dans les universités les plus présentes dans le débat politique, l'université de Téhéran ou les autres grandes universités à Téhéran ou dans les autres régions. Donc l'université cette fois-ci également a été centre de débat, mais également un centre pour le débat politique en Iran. Et les étudiants, même s'ils sont moins mobilisés qu'avant, mais quand même, c'est une mobilisation assez importante au sein des universités.
Assez importante. Et puis, dernière chose qu'il faut préciser quand même, puisqu'on en parlait en préparant cette émission. Donc, on parle globalement de l'université de Téhéran, plus 2 autres universités qui ont eu une part importante dans les mobilisations politiques, notamment en 2009. Mais aujourd'hui, le paysage universitaire a changé. Il y a 5 millions d'étudiants en Iran. Est-ce qu'on n'a pas affaire à une fraction toute minoritaire des étudiants mobilisés en Iran, des étudiants contestataires, je veux dire?
Oui, il y a. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire les étudiants mobilisés dans les universités un peu rebelles, entre guillemets, où il y a une participation très forte, il y a souvent des manifestations pour contester telle ou telle chose, ou les meetings électoraux, mais en parallèle également, il y a un impact sur l'opinion étudiante, c'est-à-dire une fois que ces étudiants sont mobilisés, l'opinion étudiante est très intéressée par cette mobilisation, sans s'impliquer parfois d'une manière assez nette, mais quand même pour aller voter ou pour manifester son mécontentement, les autres étudiants n'hésitent pas à soutenir ces mouvements déclenchés à l'occasion des élections ou d'autres types de protestations en Iran depuis plusieurs années, notamment lors des élections, parce que finalement le seul moment critique dans la société iranienne aujourd'hui, la seule ouverture possible, ce sont des élections. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a une ouverture, et après, pendant plusieurs années, il y a un silence jusqu'à l'élection suivante, quoi.
Et donc, ce sera une situation à suivre pour nous, justement, à travers cette ouverture, voir si, finalement, la capacité de mobilisation étudiante ne va pas être victime de cette ouverture, si les étudiants ne vont pas s'endormir un peu. On suivra ça. Je vous remercie beaucoup, Saïd Pevandi, d'être intervenu brièvement, pardonnez-moi, mais merci encore.
Merci.
Merci. Et puis, merci. Je voudrais juste une petite conclusion, justement, Jean-Thomas Martelly, sur cette université iranienne, capacité affaiblie de mobilisation. On parlait de la faible place des universités de Téhéran. Je crois que la JNU, c'est 8000 étudiants aussi, ou je me trompe finalement, c'est très peu dans le paysage indien.
C'est très peu, et ça souligne un phénomène plus général, je pense, de l'origine sociale, de non seulement l'origine sociale, mais l'origine, le type de monde social des protestations étudiantes. On voit bien, et dans le monde académique c'est très clair, que la mobilisation et la protestation est clairement le fait d'une certaine élite éduquée. On l'a vu en Chine, pour Tiananmen, on l'a vu après mai 68 aux États-Unis, on l'a vu dans les printemps arabes, il y a une publication qui vient de sortir juste la semaine dernière. GNU fait partie de ce modèle-là.
Merci beaucoup. Un modèle qu'on continuera de voir avec votre thèse sur les student movements indiens, Jean-Thomas Martelly. Merci d'être venu. Merci à nos invités, Zeller Dinch, Saïd Pevandi, toute l'équipe de Culture Monde également, et Jean-Guy Lamej à la technique. On se retrouve demain pour le dernier épisode de la série. On parlera du prix du savoir, plus poétique que le coût des études.